Vous êtes avec la Fondation La Cause. Au micro, Dominique Pauvret, directrice du département handicap visuel de la Fondation La Cause. Avant de vous présenter mon invité, Jean Wagner, président de l'Union française de Showdown, quelques mots sur une journée internationale. En effet, le 15 octobre prochain, c'est la journée internationale de la canne blanche. Décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles, la journée du 15 octobre est l'occasion de sensibiliser le grand public à la place des personnes mâles ou non-voyantes dans notre société. Et c'est également l'occasion de réfléchir à l'accueil des personnes déficientes visuelles au sein de nos églises, de nos assemblées, de nos groupes. Dès sa création en 1920, la cause a été aux côtés des personnes déficientes visuelles et 100 ans plus tard, cette mission est toujours d'actualité puisqu'au sein du département handicap visuel, nous proposons une bibliothèque adaptée, accessible aux personnes dites empêchées de lire. Le fonds est composé d'ouvrages audio et en braille. Le choix est vaste. Il s'agit de romans, de livres d'histoire, d'ouvrages de spiritualité. Nous proposons aussi des publications mensuelles ou trimestrielles, par exemple « Étoiles dans la nuit », un enregistrement auquel je tiens particulièrement, qui est une sélection d'articles parus sur le net autour d'une thématique. En octobre, le thème choisi est l'Église numérique, ce qui est très en phase avec les expériences que chacun a pu vivre lors des confinements. Nous organisons également des séjours adaptés où des participants voyants, malvoyants, non-voyants, chrétiens de toute origine, vivent un temps d'échange. Cet été, nous avons passé une semaine à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, autour de la question suivante, prendre soin de la création. Mais ce n'est là qu'un bref aperçu de nos activités, j'y reviendrai à la fin de l'émission. Et place maintenant à mon invité Jean Wagner, président de l'Union française de Showdown, pour en savoir un peu plus sur ce sport en pleine croissance. Il m'a semblé d'autant plus important de l'inviter et de faire ainsi un focus sur un sport accessible, que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo viennent de s'achever et qu'en 2024, dans 3 ans, s'ouvriront les Olympiades de Paris. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui au micro de la Fondation La Cause et du département handicap visuel Jean Wagner, qui est non-voyant depuis l'âge de 45 ans et président fondateur de l'Union française de Showdown. Étant donné les conditions sanitaires, cet entretien est mené par téléphone, bien sûr. Mais nous allons pouvoir en savoir un peu plus sur ce sport au nom énigmatique qu'est le Showdown. Donc, vous êtes président, Monsieur Wagner, de l'Union française de Showdown. C'est la fédération qui regroupe les 18 clubs de pratiquants de ce sport. Et première question, bien sûr, qu'est-ce que le Showdown et d'où vient le nom ?
Bien, bonjour à tous. Bonjour, Madame Pauvret. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de cet entretien. Voilà.
C'est normal, nous avons à cœur d'accueillir tous ceux qui œuvrent dans le domaine du handicap visuel, que ce soit en termes de sport, de loisirs culturels ou tout autre domaine d'activité qui peut amener ainsi à une meilleure accessibilité de tous. Donc, Showdown, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le Showdown est donc un sport sur table. Ça va s'apparenter un peu au tennis de table, un peu au billard, ou pour certains qui connaissent dans certaines fêtes foraines, le jeu du palais.
Ça se joue sur une table de la même dimension qu'une table de ping-pong ?
Non, alors c'est une table qui est moins large et plus longue. Donc, les dimensions intérieures, c'est 1,25 m sur 3,66 m de long. Et cette table va avoir elle est relevée par des côtés de 14 cm de hauteur.
Et c'est un sport de raquette.
C'est un sport de raquette, puisque pour pratiquer ce sport, nous allons utiliser effectivement ce qu'on appelle une raquette en bois, mais en sachant que la balle ne vole pas comme au tennis de table. La balle va rester en contact avec la table.
Donc, c'est vraiment un sport hybride entre le ping-pong, le billard aussi alors ?
Le billard, parce qu'on va jouer avec les effets de la balle en l'envoyant sur les côtés de la table. Donc, en fait, on se retrouve à faire ce qu'on appelle un système de bande, c'est-à-dire de croisée, pour aller marquer des buts à l'adversaire, pour feinter l'adversaire. Donc, c'est pour ça que ça s'apparente aussi au billard.
Est-ce que la balle est équipée d'un système sonore ?
Oui, absolument. C'est une balle en PVC rigide. Et à l'intérieur, il y a des petites billes en acier, ce qui nous permet effectivement de suivre la trajectoire de la balle à l'oreille.
Un match de showdown se joue avec deux joueurs, chacun d'un côté de la table, n'est-ce pas ?
Ce sont les règles de tennis de table, c'est-à-dire qu'un match est en deux sets gagnants, éventuellement un troisième set en cas d'égalité. Un set, c'est en 11 points avec 2 points d'écart avec l'adversaire. Alors, le showdown est pratiqué particulièrement par les déficients visuels, mais tout le monde peut le pratiquer en club. Le joueur est complètement autonome. Il pratique en club et il apprend en club, puisqu'il y a des coups à apprendre. Hein. C'est un jeu très technique.
Il y a une stratégie possible dans le showdown ?
Oui, le showdown est très stratégique. Le tout, c'est de déstabiliser effectivement l'adversaire. Donc, il y a différentes ruses. Déjà, il y a toute une multiplication de coups différents à pouvoir faire. Et on joue un peu avec les nerfs de l'adversaire, tout comme au tennis ou au tennis de table.
Comment l'avez-vous découvert vous-même, ce sport ?
Alors, moi-même, je l'ai découvert dans une association sur Paris en 2008. Et je me suis rendu compte que c'était un sport qui n'était pas développé du tout en France. À l'époque, j'ai participé à des tournois internationaux et championnats d'Europe pour observer réellement cette pratique.
Et la développer à votre tour
Et le développer à mon tour en France.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport ?
Le dynamisme de ce sport, l'autonomie que ça demande, la concentration que ça demande. Moi, j'ai commencé très tard, donc je n'ai jamais pu prétendre à être un excellent joueur. À partir de 45 ans, nous n'avons quand même pas la réactivité d'un jeune de 18 ans ou de 20 ans. Mais somme toute, ça demande les mêmes qualités sportives.
Le showdown peut être un sport extrêmement dynamique, extrêmement rapide.
Effectivement, en compétition, la balle peut atteindre la vitesse de 160 km/h. C'est extrêmement rapide. Donc, c'est pour ça que ça demande des qualités de concentration, des repères dans l'espace. Il faut être très réactif derrière la table.
Est-ce que vous pouvez me faire le portrait, justement, d'un champion de showdown ? Je crois qu'un des champions français, c'est Mathieu Juglar.
Mathieu Juglar, aujourd'hui, doit avoir environ 33 ans. Il a été dans les 5 premiers dans le classement international. Et il a été deuxième au top 12. Ce qu'on appelle le top 12, c'est les 12 meilleurs joueurs européens qui se confrontent et également les 12 meilleures femmes européennes qui se confrontent.
Donc, il y a une catégorie hommes et il y a une catégorie femmes, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
C'est vraiment deux catégories différentes.
C'est deux catégories totalement différentes, oui, tout à fait. Sauf quand on fait un tournoi par équipe. Auquel cas, c'est mixte. Après, sur les tournois amicaux, interclubs, etc., ça peut être tout à fait mixte. Hein. C'est uniquement sur les tournois officiels.
Quelle est l'histoire de ce sport ?
Joe Lewis, qui était un Canadien, qui était pongiste et qui a perdu la vue. Donc, il a décidé avec un ami, pour pouvoir continuer à faire du sport, ils ont décidé de trouver un nouveau jeu, une nouvelle discipline. Et c'est comme ça que s'est créé le showdown en 1960 au Canada.
Ah, ça fait déjà un certain nombre d'années. Hein.
Ça fait déjà très longtemps. Ensuite, bizarrement, aujourd'hui, il est très peu pratiqué au Canada. Il est particulièrement pratiqué en Europe. Et il a été surtout développé grâce aux Pays-Bas. C'est là que cette discipline a pris naissance, quoi, réellement, sur le continent, quoi. Ah ben aujourd'hui, il y a plus de 28 pays d'Europe qui jouent au Shodan. Et nous commençons progressivement à aller sur d'autres continents, tels que l'Asie. Donc aujourd'hui, vous avez la Russie qui joue, vous avez la Chine qui vient de s'y mettre, vous avez la Corée du Sud.
Ça pourrait devenir une discipline des Jeux paralympiques, par exemple.
Alors, c'est l'objectif de la Fédération internationale qui gère les sports de déficience visuelle, effectivement, que le Shodan devienne jeu paralympique. Mais les critères sont très contraignants, puisque pour être sport paralympique, il faut que le sport soit pratiqué sur tous les continents et un minimum de pays par continent. C'est encore pas pour aujourd'hui.
Actuellement, combien y a-t-il de licenciés en France ?
En France, plus d'une centaine, particulièrement dans les grandes villes ou moyennes villes.
Quels sont les projets de l'Union française de Shodan ?
C'est bien évidemment le développement de ce sport sur le territoire français et le rayonnement du Shodan et des sportifs français sur l'international.
À moyen terme, je crois comprendre que vous avez aussi un projet d'organisation de compétition internationale.
Oui, c'est exact. J'ai déjà organisé en 2012 et 2013 deux tournois internationaux. Après, depuis 2014, tous les ans, il y a le tournoi, bien évidemment, national. Et le dernier week-end d'octobre 2021, j'ai posé candidature auprès de l'IBSA, donc de la Fédération internationale, pour organiser le tournoi le plus prestigieux du monde du Shodan, qu'on appelle le Top 12. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, les 12 meilleurs joueurs européens et les 12 meilleures femmes européennes. Et donc, ce tournoi se déroulera en octobre 2021.
Et là encore, ce tournoi va s'organiser en fonction des règles de ce sport, c'est-à-dire en match de 2 sets, avec un troisième set si les joueurs ne se sont pas départagés au cours des 2 premiers sets, n'est-ce pas ?
Alors, pas tout à fait, puisque ce qu'il faut savoir sur un tournoi international classique, à partir des quarts de finale, ce sont des matchs en 3-7 gagnants. Donc, nous pouvons aller jusqu'à 5-7. Et le top 12 est sur cette réglementation, c'est-à-dire que tous les matchs du top 12 sont en 3-7 gagnants.
Donc, du coup, ça fait des matchs qui sont beaucoup plus exigeants physiquement, peut-être ?
Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus épuisant, puisque là, on va sur des matchs qui peuvent atteindre à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, voire un peu plus d'une heure. Donc, quand on sait la concentration que ça demande, c'est effectivement très, très épuisant.
Parce que là, on mobilise énormément tout ce qui est oui et vitesse de réaction motrice, en fait.
Voilà, c'est pour ça que, en général, les champions de Shodan, malgré l'handicap visuel, sont des gens très autonomes, parce que ça nécessite effectivement beaucoup de réactivité, d'autonomie, de concentration, de repères dans l'espace.
À quel âge peut-on commencer ?
On peut commencer très jeune. Sur le tournoi national de 2015, le plus jeune joueur avait 12 ans. Et le plus âgé avait 72 ans.
Ouh, ah bah d'accord.
Il s'agit d'une dame.
Ah oui, oui, ça conserve en fait le Shodan.
Voilà. Donc, ça conserve.
Ça fait grandir et ça conserve, c'est ça ?
Voilà. Bon, après, il y a, comme dans tous les sports, si vous voulez, il y a évidemment des divisions, c'est-à-dire des niveaux de jeu. D'accord ? Donc, à l'heure actuelle, chez les hommes, il y a 3 divisions et chez les femmes, il y a 2 divisions.
Pourquoi ne pas avoir francisé ce nom bizarre ?
Shodan en canadien, ça veut dire confrontation. En fait, la Fédération internationale, IBSA, a toujours gardé ce nom, donc on se doit de garder ce nom.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le Shodan ?
Eh bien, que le Shodan est en plein développement donc, sur le territoire français, que nous allons... quand la crise sanitaire le permettra, ouvrir de nouveaux clubs. Ce ne peut pas se faire sans l'aide de tout le monde, puisque pour développer des clubs, il faut bien évidemment des soutiens financiers, etc., qui sont aujourd'hui très difficiles à obtenir.
Quels sont vos partenaires dans cet effort de développement de ce sport ?
Alors, les partenaires que nous avons à l'actuel, c'est l'association Voir Ensemble, une association nationale. Nous avons également la Fédération des aveugles de France. Nous avons également les Bouchons de l'Espoir. Et le dernier partenariat mis en place par l'Union, qui date du 6 janvier, est un partenariat avec la Fédération sportive ASPTT.
Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation rapide du showdown aura donné envie à tous nos auditeurs de faire connaissance et pourquoi pas de s'initier à ce sport dans les différents clubs proches de chez eux. Et bon vent pour les différents projets que vous menez au sein de l'Union française de showdown, tant au niveau du développement du sport que du lancement de cette compétition internationale.
Écoutez, je vous remercie énormément pour cet entretien. Vous pouvez toujours aller visiter le site web de l'Union sur showdown.fr.
Bon vent pour l'Union française de showdown. Merci beaucoup, monsieur
Jean Wagner. Merci beaucoup.
Cet entretien avec Jean Wagner a été réalisé il y a quelques mois déjà. Et j'ai le plaisir de vous communiquer les dernières informations concernant le tournoi dont il est question, le Top 12 2021. Il aura lieu du 28 au 31 octobre, aux Issambres, à Roquebrune-sur-Argence. Et vous pourrez suivre les matchs sur une chaîne YouTube dédiée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à joindre l'Union française de Showdown au 06 08 11 40 24. Je répète, 06 08 11 40 24. Ou encore par mail à l'adresse suivante président@showdown.fr. Showdown, ça s'écrit S-H-O-W-D-O-W-N. Eh bien, bon tournoi à tous les compétiteurs. Vous êtes à l'écoute de l'émission De la Cause, au micro Dominique Pauvret, directrice du département handicap visuel. Vous pouvez retrouver toutes les musiques diffusées pendant cette émission sur un CD réalisé par la Fondation La Cause, Renaissance et Réforme, avec le pasteur Jean-Christophe Robert au hautbois, Jacqueline Toussaint-Bailly au clavecin et la mezzo-soprano Marie-Zolt Vixorek. Revenons à présent sur la journée des Cannes Blanches qui aura lieu le 15 octobre prochain. C'est l'occasion pour la Fondation La Cause de mettre en avant les activités proposées par le département handicap visuel, comme la bibliothèque adaptée. Comme la plupart des bibliothèques adaptées sous forme associative, nos enregistrements sont réalisés par des donneurs de voix bénévoles qui, chez eux, lisent les ouvrages qui seront proposés auprès à nos abonnés. Si vous êtes intéressé par cette activité et que vous voulez en savoir plus, voici quelques questions-réponses qui vous donneront les premières informations sur le don de voix. Voilà, vous aimeriez enregistrer des ouvrages pour la bibliothèque sonore de la Fondation La Cause, mais avant de vous lancer, vous vous posez quelques questions. Donc voici nos réponses. Quelles sont les exigences particulières concernant la voix des donneurs de voix ? Eh bien, il faut avoir une bonne élocution, articulation, respiration, ce qui se travaille, et savoir moduler sa voix, ce qui s'apprend. le donneur de voix est un passeur qui doit s'effacer devant le texte et l'auteur. Il doit trouver la bonne distance et comprendre le texte qu'il lit. Un contact téléphonique avec la responsable de la bibliothèque est de toute façon indispensable avant tout essai d'enregistrement. Quel est le matériel nécessaire? Il faut disposer d'un ordinateur, PC ou Mac, et d'un micro et d'un casque de bonne qualité, sans oublier l'espace où s'installer tranquillement pour enregistrer. Les enregistrements sont réalisés à l'aide d'un logiciel libre, Audacity. On peut le télécharger et l'installer gratuitement sur son ordinateur. C'est un logiciel qui se rapproche par la forme des traitements de texte, ce qui rend son apprentissage assez simple et rapide. Nous proposons de toute façon un tutoriel pour l'apprentissage d'Audacity et nous sommes bien sûr à la disposition des donneurs de voix qui auraient des difficultés. Combien de temps faut-il consacrer au don de voix? Il est recommandé d'être régulier dans sa pratique. C'est un point clé. Un donneur de voix organise son planning comme il le souhaite. Il faut cependant tenir compte des faits suivants. La voix se fatigue après 20 à 30 minutes. Il vaut mieux programmer des séances courtes mais régulières, de préférence pas en fin de journée. Si on espace trop les séances, il faut se refamiliariser avec le logiciel Audacity. Et par ailleurs, il est difficile d'évaluer les durées nécessaires pour enregistrer un ouvrage qui dépendent de sa longueur et de sa nature, mais on risque de se décourager en y passant trop de temps. Le mieux est de réserver dans son planning hebdomadaire 2 ou 3 plages de 45 minutes, 15 minutes d'installation et 20 à 30 minutes d'enregistrement. Mais tout cela est très variable et s'adapte à l'organisation des donneurs de voix. Qui choisit les livres? Pour le choix des livres, il se fait en bonne intelligence avec la responsable de la bibliothèque sonore, en n'oubliant pas que le donneur de voix enregistre pour les abonnés de la bibliothèque. Nous tenons compte des préférences des donneurs de voix, mais il faut savoir qu'il y a des ouvrages qui doivent entrer dans notre fonds parce qu'ils sont demandés par nos abonnés ou parce qu'ils sont pertinents dans notre offre. Comment se fait l'envoi des fichiers? L'envoi des fichiers se fait par des plateformes type WeTransfer, qui sont d'un usage très simple. Si vous êtes intéressé par le don de voix, vous pouvez donc nous contacter par mail à l'adresse suivante handicap visuel au singulier tout attaché @lacause.org. Je répète, handicap visuel @lacause.org. Après ce premier contact par courrier électronique, nous vous rappellerons et nous serons très heureux de pouvoir vous accueillir au sein de notre équipe de donneurs de voix. À l'écoute de la Fondation La Cause, au micro Dominique Pauvret, directrice du département handicap visuel. Parmi les services que propose aux personnes déficientes visuelles le département, la bibliothèque adaptée est l'un des plus anciens. Elle s'adresse à toutes les personnes dites empêchées de lire. Cette expression un peu obscure désigne l'ensemble des personnes qui, du fait d'un handicap sensoriel, moteur ou mental, ou d'un trouble de la lecture et des apprentissages, par exemple la dyslexie, la dyspraxie ou la dysphasie, eh bien ce sont toutes ces personnes qui ne peuvent recourir à l'édition classique en noir. Ces personnes peuvent utiliser des enregistrements audio disponibles sur CD ou fichiers numériques pour accéder à la lecture. Nos livres sur CD sont envoyés en France et à l'étranger dans des pochettes spéciales équipées d'une étiquette réversible comportant au recto l'adresse de l'abonné et au verso l'adresse de la Fondation La Cause. Les services postaux en France et à l'étranger acheminent gratuitement, à l'aller comme au retour, ces pochettes qui portent un sécogramme, c'est-à-dire un logo qui représente de façon stylisée une silhouette avec une canne blanche. Bien sûr, nous adaptons à la durée des prêts au rythme de lecture des abonnés qui peuvent garder le temps nécessaire à leur consultation, les audiolivres. Le choix des ouvrages se fait grâce à un catalogue disponible sous support papier ou CD, ce qui permet aux abonnés de faire leur choix, seuls ou avec l'aide d'un proche. Nous sommes également à la disposition des abonnés par téléphone pour les aider au choix de leurs livres. Chaque audiolivre a été décrit à partir de 3 mots-clés qui permettent de mieux cibler le conseil du bibliothécaire en fonction des centres d'intérêt du lecteur. Si dans votre entourage, vous connaissez une personne qui pourrait avoir recours à notre bibliothèque adaptée, n'hésitez pas à lui en parler et à nous contacter pour que, à notre tour, nous puissions lui présenter ce service. Car il permet de lutter contre l'isolement et contre le sentiment d'une certaine dépendance de la part des personnes qui ne peuvent pas accéder directement à la lecture. Voici nos coordonnées. D'abord notre site internet www.lacause.org. Je répète, www.lacause.org. L'adresse mail du département handicap visuel. Handicap visuel au singulier tout attaché @lacause.org. Je répète, handicap visuel au singulier tout attaché @lacause.org. Et enfin, le numéro de téléphone de la Fondation La Cause, 01 39 70 60 52. 01 39 70 60 52. Nous serons très heureux de répondre à toutes vos questions, qu'elles vous concernent, vous directement, ou qu'elles concernent un proche, un ami, une amie, ou quelqu'un que vous croisez dans vos paroisses ou dans vos assemblées.